Actu SF, les podcasts.
C'est impressionnant. Bonsoir, non pas bonsoir, bonjour. On ne sait plus très bien, au bout de trois jours de festival, on confond le jour et la nuit. Bienvenue, bonjour donc à toutes et à tous. Bienvenue dans cette magnifique salle 2001 pour cette table ronde. Rivage des assoiffés, c'est amusant parce que quand on m'en a parlé pour la première fois, je me suis dit c'est une drôle de façon de renommer le bar de Madame Spock, mais en fait pas du tout, c'est vraiment une discussion qu'on va avoir et c'est surtout une discussion beaucoup plus sérieuse que ça et qui résonne d'ailleurs, dont on va en discuter avec l'actualité actuelle que vous avez, l'actualité actuelle, c'est bien ça, ça commence bien, que vous avez certainement suivi avec la création d'une nouvelle ZAD justement pour s'opposer à un projet de réserve d'eau agricole. C'est également une actualité parce que on est en octobre, il fait 30 degrés, on atteint des niveaux de sécheresse pour un automne qui sont du jamais vu quasiment dans l'histoire de notre planète. Et puis, autre actualité, vous le savez certainement également, une station de sport d'hiver vient d'être tenue en échec pour une première fois après avoir tenté de créer une nouvelle retenue d'eau douce sur un espace naturel protégé pour pouvoir alimenter les canons à neige et satisfaire les vacanciers amateurs de ski. Alors, il va malheureusement falloir s'habituer à cet état du monde où l'eau vient à manquer, où contrairement à ce que certains gouvernements peu soucieux veulent nous faire croire, il ne suffit pas de fermer le robinet quand on se brosse les dents pour régler le problème. L'eau potable manque, elle va manquer de plus en plus, et si elle manque chez nous, elle va manquer encore plus dans les pays du Sud plus exposés à la sécheresse. Et comme quand toute ressource manque, elle a donc de la valeur, elle en gagne. Elles se marchandisent et le marché se l'approprie au détriment des populations. Pour information, en France aussi, et on pourra en discuter, je vous donne quelques éléments comme ça de repère, on estime qu'un litre d'eau potable sur 5 est perdu dans les fuites de canalisation. C'est 1300 milliards de litres qui disparaissent chaque année dans le contexte que je viens de vous décrire. Donc, bienvenue sur Terre en 2022. La guerre de l'eau aura-t-elle lieu? C'est la question à laquelle nous allons tâcher de répondre dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode. Non, pardon, j'ai arrêté, ça c'est fini. Excuse-moi, c'est un vieux réflexe. Bonjour Marguerite Humbert.
Bonjour.
Vous êtes autrice, vous avez signé Les Flibustiers de la mer chimique qui est sorti il y a quelques semaines chez Albin Michel Imaginaire. C'est un monde post-apocalyptique où les océans sont devenus toxiques sur fond de déni écologique et de croyance en la rédemption. Jean-Marc Ligny, bonjour Jean-Marc.
Bonjour.
Vous avez notamment écrit dans votre grande bibliographie Aqua TM, c'est chez l'Atalante. On est vraiment là en plein cœur du sujet avec la découverte d'une immense nappe phréatique dans un pays africain qui va déclencher un conflit politique, économique et messianique. Et Jérôme Armand, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chercheur à INRAE, vous travaillez notamment sur la réutilisation des eaux usées traitées en agriculture. On voit qu'on est encore là plein dans le cœur du sujet et dans l'actualité. Alors le sujet est effectivement relativement vaste. Par où est-ce qu'on peut commencer, Jérôme Armand? Est-ce que vous iriez skier à la Clusaz cet hiver?
Alors je ne vais pas à la Clusaz. Non, moi j'habite à Narbonne, donc je vais plus proche de chez nous, mais je continue à aller au ski. Je ne sais pas si je devrais le dire. Surtout qu'on va dans une station qui est un peu bas. Mais enfin, bon, voilà. Oui, pour démarrer, je crois que vous avez... on a dit constitué.
Oui,
je crois que tu as prononcé un mot vraiment très important dans ton introduction, qui était la valeur de l'eau. Et alors, nous travaillons sur des aspects de traitement de l'eau. Je crois qu'il y a un élément fondamental qu'il faut se mettre dans la tête, et qui est que quand on va aux toilettes et qu'on y laisse ces petites choses, c'est une nouvelle ressource. Cette ressource, on doit la voir en tant que telle, et on ne doit pas la voir comme un poids pour une communauté qui doit la traiter derrière. Donc en fait, c'est un changement majeur de paradigme qu'il nous faut faire, et qui est que cette valeur de l'eau, elle doit, de l'eau et des déchets. Et quand on parle des toilettes, on voit tout de suite que les choses sont à intégrer ensemble et que forcément, on va parler de l'eau ici majoritairement, mais il y a une intégration globale dans l'énergie, dans la matière qu'il faut absolument, il y a un basculement à faire de ce côté-là. Et je pense que, voilà, en termes d'introduction, de dire que cette valeur de l'eau, elle est intrinsèque à ce qu'elle contient, eh bien, ça devrait nous permettre d'aller chercher des leviers pour agir. Alors, en tant que chercheur, les questions qu'on se pose, c'est de se projeter un peu dans le futur. Et j'ai entendu ce matin, j'étais à la conférence d'Hugo Gambaletta au lieu unique, et il disait qu'on apprend plus...
Hugo Bellagamba.
Pardon, excusez-moi. Et il disait qu'on apprend plus de la fiction que de la science, et ça, ça m'interpelle énormément.
Oui, l'imaginaire est politique, hein, c'est un tropisme que tout le monde connaît ici, mais on s'en rend compte particulièrement. Jean-Marc, peut-être un mot, AquaTM a une quinzaine d'années maintenant, ça fait longtemps qu'on commence à entendre cette expression « l'or bleu », puisqu'on sait depuis un petit bout de temps que l'eau va venir à manquer, qu'elle est en grande partie privatisée, on pourra en discuter. Parle-nous un peu du début d'AquaTM, pourquoi cette idée, pourquoi ce thème, comment tu l'as traité, comment tu l'as exploité il y a une quinzaine d'années.
En fait, AquaTM, ça a été mon premier roman climatique, paru en 2006, effectivement, mais sur lequel j'ai commencé à réfléchir au tournant du siècle. En fait, quand j'ai pris conscience que le réchauffement climatique était là, qu'il était inéluctable, qu'il allait se produire quoi qu'on fasse, quelles que soient les promesses fallacieuses de nos dirigeants, on allait le subir. Et puis, je me suis demandé... en tant qu'auteur de science-fiction, je ne peux pas passer à côté du sujet, je ne peux pas imaginer un futur à la Terre ou à l'humanité sans aborder le problème du changement climatique et de ses conséquences. Et puis je me suis demandé par quel biais aborder ce sujet, quelle histoire raconter là-dedans. Et j'ai décidé de traiter ça par le problème de l'eau qui, à l'époque, n'était pas encore évident. Surtout vivant en Bretagne, quoi, où l'eau tombe relativement en abondance, enfin tombait du moins en abondance.
L'été dernier, même en Bretagne, il y a eu une forte, forte sécheresse.
Ah, c'est
quand on connaît la Bretagne,
c'est terrible. C'est
sidérant. Ouais.
C'est terrible et en même temps, moi je ne suis pas du tout surpris parce que c'est AquaTM qui est en train de se passer, en fait, malheureusement. Et donc, l'eau en tant que bien le plus précieux de l'humanité, ressource vitale. Effectivement, objet de tous les commerces et en même temps valeur commerciale, quoi, on va dire. Et je sais pas si je dois raconter l'histoire, mais en deux mots.
Vous pouvez en dire quelques mots, on va la résumer.
En quelques mots, une nappe phréatique a été découverte dans le sous-sol du Burkina Faso, un pays qui est en train de virer au désert actuellement. Par un satellite américain qui appartient à une multinationale qui fait allègrement dans le greenwashing. Et cette multinationale prétend que la nappe lui appartient vu que son satellite l'a découvert. La découverte du satellite qui devait être confidentielle a été piratée, a été diffusée. Et donc le Burkina fait appel à une ONG pour forer le sous-sol et récupérer l'eau de cette nappe phréatique. Et donc, la multinationale américaine va lésiner devant aucun moyen pour essayer de s'en emparer d'une façon légale et puis ensuite moins légale, quoi, on va dire, jusqu'à provoquer un coup d'État, etc. Donc, c'est vraiment un thriller politique autour de l'eau et en tant que ressource primordiale et... Paradoxalement, le PDG de cette multinationale s'inquiète sincèrement que sa terre natale, qui est le Kansas, est en train de virer au désert, qu'il y a des milliers de bétails, têtes de bétail qui meurent de sécheresse. Quoi. Et il souhaite vraiment le bien pour son pays, mais au détriment du Burkina Faso, où il n'y a absolument rien à foutre. Quoi. Voilà, en gros.
Marguerite Imbert, racontez-nous un peu justement le paysage qui est celui des flibustiers de la mer chimique, où il est surtout question d'un océan qui est devenu complètement toxique. Racontez-nous un peu justement comment vous appréhendez cette problématique autour du cycle de l'eau dans votre univers.
Alors moi déjà, je suis née sur une île, donc la Guadeloupe. Et sur cette île, qui est toute petite, c'est-à-dire que si vous avez envie de faire une randonnée en quelques heures, c'est plié. Vous allez avoir toute une population de vacanciers, de gens qui sont là pour des raisons éphémères, donc ils sont là pour profiter de la beauté des lieux et des commodités qu'ils trouvent sur place. Donc au milieu de ces couleurs, de cette vie, de ces décors qui sont là uniquement pour le divertissement, vous allez avoir des problématiques climatiques qui sont rampantes et qui de moins en moins en fait, se laissent oublier. Donc c'était un contexte très très favorable à l'écriture des flibustiers de la mer chimique, puisque dans ce même univers, on retrouve des gens qui sont en train de foncer joyeusement vers le mur, sous un soleil de plomb, un ciel qui est devenu vert fluo, des océans, des courants qui sont devenus acides, capables de ronger l'acier et les jambes des gens qui tombent dedans. Donc ils font une espèce de fête chaotique et de lutte pour le pouvoir dans cet univers-là, pendant que tout est en train de se déliter complètement. Je dirais que le passage de l'actualité à la fiction s'est fait très naturellement, voire même je suis un peu vexée parce que ce que j'ai écrit comme de la fiction il y a 2 ans en fait finalement est devenu l'actualité d'aujourd'hui en fait. Donc je rejoins ce que vous disiez tout à l'heure, on n'a presque rien à presque rien à faire, on est rattrapé. Le sprint de l'actualité climatique, en fait, ça a complètement dépassé ce qu'on imaginait, ce qu'on pensait être complètement délirant, en fait, d'un point de vue fictionnel, et qui ne l'est finalement plus du tout.
Et terrifiant quand on voit effectivement ce courant de la fiction climatique qui est rattrapé, puis on voit aujourd'hui que on se rend compte que le réchauffement climatique en France va beaucoup plus vite que tout ce qui était annoncé, que tous les modèles, qu'on n'est pas juste au milieu, on est au-dessus de toutes les courbes prévues. Redonner, je voulais, pour qu'on se rende bien compte de quoi on parle, 2-3 infos. Aujourd'hui, en 2022, maintenant, quand nous parlons, on estime que 5 personnes meurent chaque minute par défaut d'accès à l'eau potable. Vous vous rendez compte, ça fait 12 minutes qu'on parle. Voilà, 12 fois 5, je vous laisse faire le calcul. On va atteindre la centaine de morts dans quelques instants. 2,6 millions de morts par an, 90% ont moins de 14 ans. On distribue des pastilles de cyanure à la fin de cet entretien, parce que c'est vraiment absolument terrifiant. Une étude récente montre que l'eau de pluie est devenue partout dans le monde impropre à la consommation, parce que le plastique, on retrouve l'acidification des océans, les microplastiques partout, à cause de ce qu'on appelle des produits chimiques toxiques éternels, les PFAS. Vous pouvez peut-être nous dire un mot de cette eau qu'on ne peut même plus consommée alors qu'elle tombe du ciel et qui finit par recharger des nappes phréatiques, mais avec une eau impropre à la consommation. Voilà, on n'est pas dans la fiction là, Jérôme.
Non, alors on n'est pas dans la fiction. Alors malheureusement, je ne vais pas pouvoir en dire beaucoup parce que sur ce thème très spécifique, je ne suis pas spécialiste du tout. Mais ce qui est sûr, c'est que notamment, un certain nombre de molécules qui sont pour la plupart qui peuvent être piégés ou qui sont vaporisés hein, par un certain nombre d'activités ou qui se retrouvent dans l'atmosphère lors de nos activités de production ou de l'ensemble du traitement de nos déchets. Ces molécules se retrouvent malheureusement dans l'atmosphère et redescendent avec les pluies. Alors, c'est un phénomène il y a des choses qui ne sont pas nouvelles quand même. Alors, ce n'est pas forcément les mêmes molécules. Mais quand j'étais petit, et donc tu devais être petit aussi, on a entendu parler des pluies acides. Hein, alors c'était un autre phénomène différent. Mais enfin, ce phénomène de pollution, il n'est pas récent. Et le problème qui se pose, c'est pas le fait qu'il y ait des pluies qui soient impropres à la consommation, c'est le fait qu'elles soient désormais sur l'ensemble du globe. Et c'est ce phénomène qui est beaucoup plus inquiétant, qui dit, alors je crois qu'il y a une étude qui était sortie il y a plus de 15 ans de cela, où on avait trouvé ces microplastiques déjà dans des grands déserts américains où il y avait, par les 3 randonneurs, c'est pas la quantité de plastique qu'ils jetaient qui était un problème. Donc ces plastiques, ils étaient arrivés de quelque part et forcément, très probablement, c'était par les pluies.
Alors, et pour compléter ce que tu dis, il y a des études plus récentes qui montrent qu'on trouve aujourd'hui des microplastiques en Antarctique et qu'on en trouve dans les glaciers pyrénéens, c'est-à-dire un endroit normalement qui n'est pas accessible ou très peu à l'être humain. Donc en fait, on en trouve strictement partout.
Exactement. Et donc la seule explication possible de cela, c'est effectivement des précipitations. Alors, ces microplastiques, il faut savoir qu'il y en a énormément dans notre quotidien. Et que j'ai un pantalon ici dans lequel il y a de l'élastomère, c'est bien pratique, c'est très intéressant. Il y en a dans les chaussettes, les sous-vêtements, etc. Et à chaque fois qu'on fait une machine à laver, ben forcément, ces microplastiques qui se retrouvent dans l'environnement. Alors, le fait est que quand on le sait et qu'on continue à vivre comme ça, ça veut bien dire que ça répond à un besoin. Donc, c'est pas du jour au lendemain, très probablement, qu'on va réussir à changer nos habitudes. Et j'en viens à un point majeur que tu as commencé à évoquer, qui était, effectivement, c'est pas en se brossant les dents et en faisant moins couler l'eau qu'on va changer. Mais je crois, en revanche, j'ai eu une discussion très longue avec un ami qui me disait ça, et son argument, c'était, bah oui, mais quantitativement, ça joue pas. Sauf que, sur l'éducation de l'enfant qui, lui, va se brosser les dents en coupant l'eau, ça va peut-être tout changer. Alors, le problème, Marguerite le disait, c'est la dynamique avec laquelle les choses nous arrivent aujourd'hui dans la figure. Et est-ce qu'on aura les moyens et la volonté de changer ces choses?
Voilà. Donc, et le temps.
Évidemment, et le temps. Donc, il y a cette dynamique très forte qui nous arrive. Et on est, alors il y a un certain nombre de leviers, on y viendra probablement, mais en attendant, il y a cet état des lieux qui est inquiétant.
Peut-être un mot, Marguerite, là-dessus. Aujourd'hui, on le dit, hein, le climat continue de se dérégler, ça va plus vite que prévu. Il n'y a pas de prise en compte notable ou en tout cas significative des pouvoirs publics. C'est aujourd'hui votre rôle, notre rôle collectif d'autrice, d'auteur, de travailler cette matière-là, de l'imaginaire, pour permettre, contribuer à l'éveil des consciences?
Je ne sais pas si notre rôle, en tout cas on essaie de faire avec la matière qui nous est donnée et qui est surabondante en ce moment. Je dirais qu'il y a, toujours une fascination morbide pour la fin du monde, et là en l'occurrence on a l'impression que cette fin du monde arrivant au devant de nous, au triple galop en fait, on doit forcément en faire quelque chose de créatif, quelque chose de peut-être réinterpréter cette fin du monde en se disant qu'il y a peut-être quelque chose après. C'est ce que j'ai essayé de faire dans le roman, en fait, c'est-à-dire que la catastrophe a eu lieu dans les flibustiers de la mer chimique. Elle a eu lieu et elle continue d'avoir lieu parce que, comme vous l'expliquiez, une fois que ces déchets sont dans la nature, une fois que ces microplastiques sont dans l'eau, ils sont éternels et on n'a pas encore inventé le moyen de les en retirer. Donc les personnages ayant survécu à cette espèce d'apocalypse sont encore aux prises avec les problèmes non résolus du passé. Mais j'ai voulu imaginer une sorte de suite un peu rigolote, un peu légère à cette apocalypse-là. Donc une façon de considérer que finalement ça répond à un besoin qu'on a et qu'on cultive, qui est le coup de pied dans la fourmilière. S'appuyer sur la catastrophe pour tout rebâtir, repartir à zéro, etc. Et l'apocalypse et le genre post-apo et la fiction, en fait, de façon générale, nous donnent l'opportunité de nous projeter, en fait, dans un avenir où on a fait table rase de nos problèmes, de tout ce qui nous prend la tête, de l'éco-anxiété, etc. Et de repartir très artificiellement à zéro, de se demander qu'est-ce qui se passe si on retire ça de l'équation, ou alors qu'on décide de s'en moquer tout simplement, luxe qu'on n'a pas dans la vie réelle. Et je dirais que les romanciers sont effectivement là pour répondre à cet appétit de catastrophe et cette envie de croire qu'on va quand même pouvoir en rire.
Voilà. Et rebâtir. Un mot là-dessus aussi, Jean-Marc, sur cette vocation finalement d'alerte, d'éveilleur de conscience, ou le besoin de traiter et de se saisir de ces sujets-là pour en faire quelque chose dans la littérature et dans la littérature d'imaginaire?
Moi, en fait, j'ai eu un besoin personnel déjà de comprendre l'ampleur du problème. Et pour justement appréhender ce phénomène de cet effondrement possible de la civilisation dans ce contexte climatique, dans toute son ampleur, j'ai rien trouvé de mieux que l'écriture, de mettre ça en scène, de mettre en image. Et donc, j'ai commencé, je me suis abondamment documenté. J'ai des rayons entiers de bouquins, tous plus anxiogènes les uns que les autres, sur les différents types et menaces, types de menaces qui planent sur nos têtes. Et les moyens, éventuellement aussi, de les contourner ou de passer outre ou d'en survivre ou de s'y adapter. Et donc, dans AquaTM, déjà, j'ai vu comment, à peu près comment la société allait changer et ce qui allait se produire dans les prochaines années, ce qui est en train de se produire maintenant. Bon, je constate avec un certain effarement que tout ce que j'avais imaginé en 2005 est en train d'arriver maintenant à peu près, quoi. Donc, je suis content de l'avoir vu juste, mais inquiet d'avoir vu juste. Et puis bon, après, j'ai voulu pousser le bouchon plus loin. Moi, mon optique, c'est quand je raconte une histoire, c'est de mettre des personnages en scène, de mettre en image des informations effarantes que j'apprends, les rapports du GIEC et tout, qui, jusqu'à très récemment, étaient abstraits aux yeux du grand public. On parlait de statistiques, de réchauffement à plus tant de degrés, de tant de mégatonnes de CO2 dans l'atmosphère, etc. Mais les gens, il y en avait assez peu conscience, sauf ceux qui étaient directement victimes de catastrophes, donc d'incendies, d'inondations, etc. Maintenant, avec l'été infernal qu'on a passé, je pense que ça impacte un peu tout le monde, quoi. C'est rentré dans la tête qu'on est vraiment en train de vivre un changement d'époque. Et donc maintenant, d'en parler, c'est plus de la fiction, quoi. C'est du docu-fiction, en fait, du documentaire, quoi. J'imagine plus pouvoir traiter du changement climatique d'une façon positive dans un avenir proche, mais par contre, je positive énormément pour un avenir beaucoup plus lointain où l'humanitaire a été fortement réduite.
Marguerite, tu voulais rebondir ?
Oui, ouais. Moi, je dirais que ce que peut peut-être faire le romancier en fait, face à justement cette accumulation de mauvaises nouvelles, c'est trouver un nouvel angle, une façon de considérer les choses, peut-être pas de proposer des solutions, ou alors des solutions peut-être loufoques, poussant à l'extrême le raisonnement, prendre à contre-pied le souci. Peut-être que le romancier peut aider à lutter contre les nouvelles assourdissantes en fait qui nous tombent dessus. Je sais pas pour vous et sans doute pour vous tous ici en fait, l'accumulation de ces mauvaises nouvelles et la sensation en fait qu'il y a un flux continu d'informations négatives peuvent émousser en fait la sensation d'alerte, peut donner l'impression que puisque finalement on est en train de vivre une chute libre, qu'elle se dissout un petit peu finalement dans l'urgence, que toutes les urgences se dissolvent les unes dans les autres et que aborder l'urgence climatique sous l'angle du romanesque, peut-être parfois de l'humour, de l'exagération, du grotesque, de l'outrancier, etc., ça peut peut-être aider à reposer dessus un regard plus alerte, plus décalé, faire un pas de côté, parfois par le roman, par la littérature, la fiction. Ça peut aider à se rafraîchir un peu les idées et se dire, d'accord, ok, peut-être que cette solution est complètement délirante, qu'elle m'apparaît délirante parce que je l'ai lue dans un livre, mais peut-être que dans 30 ans, ça va être la façon dont on s'en sort, finalement. Et on a bien vu que dans les fictions qu'on allait dans les années 80, finalement, on s'y retrouve aujourd'hui. Donc, pourquoi pas ?
C'est ce fameux trope qui est devenu un trope aujourd'hui, de dire le rayon science-fiction, le rayon dystopie est passé au rayon actualité dans les librairies, quoi.
Bien ouais. Sûr.
Jérôme, tu voulais rebondir, dire quelque chose ?
Oui, alors, plusieurs éléments. Je ne sais pas si c'est des éléments positifs ou si ce sont des éléments négatifs, mais ce sont des éléments assez objectifs. Je crois qu'il faut malgré tout raison garder. C'est pas moi qui le dis là, pour le coup ce sont les spécialistes dont c'est le travail, notamment du GIEC. Il y a peut-être des choses qui sont plus graves qui sont en train de se produire, et plus graves que celles qu'on imaginait, mais il y a un certain nombre de leviers qui restent à notre disposition et je pense que c'est important de le garder en tête. Alors Jean-Marc a parlé d'un levier un peu politiquement incorrect, hein, notamment le nombre d'humains hein, sur Terre, tout simplement. Enfin, tout simplement, c'est le plus complexe à gérer. Mais enfin, c'est un levier quand même dont on sait que...
Dont on n'ose pas parler vraiment,
alors,
en fait.
Dont on n'ose pas parler, mais dont on sait que, via l'éducation, via la formation, on arrive à lutter, si je puis dire, contre le surpeuplement. Ça, c'est un tout premier élément que je voulais donner. Le deuxième élément, il est peut-être moins, entre guillemets, positif, c'est le temps de la recherche qui n'est pas forcément le temps qui nous est imparti pour répondre aux urgences. Alors, ce temps de la recherche, il est assez long. On parlait des microplastiques. On en est aujourd'hui, là où on parle, à avoir des thèses, donc des travaux de 3 années de recherche pour savoir comment qualifier, quantifier de manière adaptée telle classe de telles molécules dans l'air, dans l'eau, etc., dans les sols. Donc c'est un temps long qui finira peut-être par manquer. En attendant, le savoir qui est acquis via ces recherches est probablement fondamental pour répondre aux difficultés. Et puis enfin, il y a un troisième élément que je voulais donner, c'est que quand on parle de nos recherches, on parle souvent d'une situation future dans laquelle on arrive à se projeter. Je parle par exemple d'un certain nombre de projets, puisqu'on parlait de réutilisation d'eau usée. Imaginez quelle sera la gestion de l'eau dans nos villes à l'horizon de 2030-2040. Cette gestion, on en a souvent une très bonne idée avec des villes qui permettent de recycler les matières, les nutriments, ce qu'on veut, y compris l'eau. Le problème... Et là, vous avez parlé de point zéro à un moment donné. Je ne sais plus si c'était Jean-Marc ou Marguerite. C'était Jean-Marc. Ces villes-là, elles peuvent sortir de terre et ils peuvent y faire vraiment très bon vivre. Notre problème aujourd'hui, c'est comment on passe de la situation actuelle. Donc, chercher ce que sera la ville, c'est un problème. C'est un projet en soi. Voir la situation aujourd'hui, elle est ce qu'elle est. On essaye d'y remédier, si je puis dire. Le problème... C'est cette transition entre la situation actuelle et la dynamique qui va nous permettre d'arriver à cette mise en place de villes du futur. Et là, il y a très souvent, il y a ne serait-ce que pour des questions d'infrastructure, donc des choses très lourdes qui demanderaient des investissements gigantesques, et bien là, on se trouve devant des difficultés importantes de mise en œuvre.
Oui, Marguerite, j'ai l'impression que ça te fait réagir.
Ah oui, juste quand on parle de ville du futur sortie de terre, moi je pense à cette ville actuellement en train de sortir du sable, en fait, de Neom, forcément, qui est censée avoir un bilan carbone zéro, voire même au contraire contribuer à purifier l'atmosphère autour d'elle. À quel prix néanmoins? Est-ce que finalement on les a, ces ressources, puisque ces ressources sont entre autres humaines et morales? Donc c'est vrai que la question se pose et n'est pas encore complètement résolue, il me semble.
Moi, je pense que là, il s'agit des enclaves de riches que j'évoque dans Exode. Voilà, les villes souterraines ou les bâtiments construits dans des silos à missiles ou les villes vertueuses, zéro pollution, mais hors de prix et qui se bâtissent au détriment de leur environnement malgré tout, parce que tout ça nécessite beaucoup d'énergie à bâtir, même si c'est après autosuffisant en consommation. Mais ce n'est pas un projet qui peut convenir à 8 milliards d'êtres humains, quoi. C'est forcément réservé à une élite qui aura les moyens de vivre dans de tels habitats et de se préserver de la catastrophe climatique qui commence à arriver. Donc... voilà, moi je pense que effectivement l'être humain est capable de pouvoir changer radicalement ou d'innovation ou d'une révolution technologique, scientifique, sociale et tout, mais en général quand le marteau lui est tombé sur la figure et que c'est déjà trop tard, quoi. Malheureusement, et pour l'instant, on est, dit la métaphore de la grenouille, quoi. Là, on est dans la casserole d'eau tiède, mais elle continue à chauffer, puis on ne s'en rend pas compte. Les gens trouvent même plutôt agréable qu'il fasse 25 degrés un 30 octobre. C'est cool, c'est sympa, quoi. On est bien, on est en t-shirt. Moi, je me souviens d'Utopia, où on se pelait dehors, sous la pluie. Voilà, bon... Mais ceci dit, je crois que c'est dans l'Est que les cerisiers ont commencé à refleurir et tout. Enfin bon, la nature perd le nord aussi, hein, carrément. Donc, voilà, je ne sais plus où je voulais en venir d'ailleurs.
Oui, Margaret, tu voulais rajouter quelque chose, non ?
Oh, c'est juste que je ne sais pas si c'est très intéressant, mais c'est une remarque que je me faisais en vous écoutant. Non, mais j'ai dit beaucoup de choses pas intéressantes, hein, c'est vrai.
Mais c'est beaucoup de choses intéressantes
très,
aussi.
C'est très fatigant, enfin, vous imaginez, pour mon entourage. Enfin, bref, donc, je me faisais la réflexion que on parlait de réalité qui dépasse la fiction, et parfois je la trouve en deçà de la fiction. C'est-à-dire que ce que vous décrivez, et ce qu'on écrit tous depuis maintenant 30 minutes, là, c'est quelque chose qui serait de nature, normalement, à soulever des populations, à provoquer des révoltes et tout. Et finalement, je trouve que, alors que, comme vous l'expliquiez en début de séance, on a 40% de la population mondiale qui se trouve régulièrement en situation de pénurie d'eau face à un Américain moyen qui consomme 300 litres d'eau par jour. Pour sa vaisselle, son bain, les toilettes, tout. Ce genre de disparité, en fait, dans un bouquin, ça donnerait lieu à un Hunger Games ou à une espèce de phénomène littéraire où les gens finiraient par s'entretuer, en fait. Et il n'en est rien. Et on arrive à garder un ordre mondial, en fait, remarquablement stable et à perpétuer, en fait, notre façon de faire malgré tout. Et là, je trouve que des fois, la réalité est en deçà de la fiction.
Mais là, c'est intéressant que tu pointes ça, parce qu'on voit dans les deux exemples récents de l'actualité et aujourd'hui encore qu'il y a de plus en plus d'actions pour se saisir de ces problématiques-là, avec donc la création de cette nouvelle ZAD pour éviter de créer une nouvelle ressource d'eau, avec cette intervention des associations pour empêcher la ville de La Clusaz de refaire une retenue d'eau pour faire des canons à neige. Donc on a quand même le sentiment que d'un seul coup, cette urgence est, grâce à ces messages d'alerte, qu'on s'est rendu compte de ce que tu disais, Jean-Marc, que le solutionnisme technologique, ça n'est pas vraiment une solution telle qu'on pouvait l'imaginer au départ. Mais néanmoins, on a quand même le sentiment, et c'est peut-être une source d'espoir, qu'il y a de plus en plus de prise de conscience populaire, citoyenne, collective, et notamment pour protéger cette ressource si précieuse qu'est l'eau. Tu voulais réagir, Jérôme ?
Oui, tout à fait. Il faut bien voir que les choses sont en train de changer radicalement. Au niveau du ressenti des gens. On travaille beaucoup. J'ai dit que les questions de recherche qu'on abordait aujourd'hui sont abordées de manière très intégrée, et notamment avec toutes sortes de collègues de sociologie. Et il n'y a pas plus tard que 4 années de cela, on a fait des sondages chez les personnes dans des populations les plus représentatives possibles, et il ressortait il y a 4 ans que les personnes étaient prêtes à recycler des eaux usées, notamment à recycler leur propre eau usée chez eux. On avait à l'époque 80% de personnes qui nous disaient oui, je suis prêt à recycler mes eaux usées chez moi, mais je veux pas entendre parler des eaux usées de mon voisin. On a refait les mêmes études très récemment, il y a quelques mois, et les pourcentages se sont complètement inversés. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette valeur dont on a parlé de l'eau, elle commence à être intégrée, et c'est 80% désormais des gens qui répondent « Oui, on recycle l'eau, quelle que soit sa provenance ». Donc, ce n'est pas un glissement simplement littéraire. Hein. Je pense que c'est vraiment un changement majeur de ressenti qui va permettre pour nous d'aller chercher les leviers nécessaires. Parce que ça, c'est un autre élément peut-être que je voudrais ajouter, c'est que les technologies, elles sont désormais disponibles. On a des technologies qui, en gros, vous prenez n'importe quelle qualité d'eau et vous pouvez la porter à n'importe quelle qualité, jusqu'à de l'eau potable. Alors évidemment, à des contraintes d'énergie et de coûts qui sont probablement rédhibitoires dans un certain nombre de cas. Mais en tout cas, ces technologies, elles nous permettent de traiter ces eaux. Alors, très probablement, c'est peut-être un point qu'on n'a pas encore abordé, mais c'est la question de se dire... Est-ce qu'on a toujours besoin d'une eau potable ? Et faut avoir un tout petit peu de bon sens pour se dire qu'on ne va pas aller boire l'eau de nos toilettes. Et donc qu'à partir du moment où on va contaminer de l'eau, on n'a peut-être pas besoin dans ces toilettes d'eau potable. Alors, une eau qui très probablement soit exempte d'un certain nombre de pathogènes, par exemple, qui au moment où on tire la chasse pourrait éventuellement être vaporisée. Encore qu'on peut peut-être se passer de chasse de plus en plus. On parle de toilettes séparatives, etc. Exactement. Qui nous permettent d'un côté de voir les solides comme une matière que l'on peut valoriser sous forme d'énergie et puis les liquides qu'on puisse qui sont en principe stériles, qu'on puisse réutiliser en agriculture parce qu'ils contiennent des nutriments. Donc voilà, donc il y a ces éléments-là très probablement importants. C'est l'évolution des mentalités qui est vraiment fondamentale en ce moment. Et puis des solutions qui, d'un certain côté, nous permettent de traiter des eaux à certains niveaux souhaités.
Je voulais rebondir justement sur cette évolution des mentalités qu'on constate. Non seulement qu'on commence à se rendre compte que tous nos problèmes d'aujourd'hui provenant de l'industrie, de la technologie, etc., ont des solutions au titre individuel ou micro-collectif, je vais dire au niveau de, je sais pas, de la communauté, du village. Voilà. On peut tous, plus ou moins, on pourra avoir tous plus ou moins les moyens de vivre quasiment en autarcie, au moins d'un point de vue énergétique, élevage, agriculture, etc., etc. Donc, il y a de plus en plus de projets alternatifs, de vies alternatives qui se montent de par le monde. Hein. Il y a déjà, je crois, 1500 éco-villages en France, hein, quand même. Et par ailleurs, il y a une exacerbation, une radicalisation des luttes pour pousser les gouvernements, les pouvoirs publics et les industriels à agir efficacement contre le changement climatique et PACC, leur greenwashing à la con. Je vois par exemple comment les gens s'élèvent contre le projet mégalo de Total en Afrique, là, en Tanzanie, là, EA, je ne sais plus les initiales, EAV, VEAC, enfin je ne sais plus, le projet de l'éoduc géant là, qui va traverser des réserves et tout. Bon, les gens commencent à soulever, puis tu as soulevé des problèmes au début, là, la station de ski, la lutte contre les méga-bassines qui est une aberration, mais alors je ne sais pas d'où quel esprit tordu a pu imaginer ça, quoi. C'est une telle aberration écologique tellement évidente. Les gens commencent à se rendre compte que il y a deux courants d'action en place. Il y a le business as usual, ce que font les méga corporations, les Total, l'échelle, les bailleurs et tout ça, et puis les gouvernements qui leur sont soumis, et donc qui sont principalement mortifères. Et à côté de ça, il y a toute une contre-réaction qui cherche à mettre en place la société d'après, qui sera post-effondrement, parce que ce système-là, tel qu'il est là, est juste pas viable. On a disons qu'il est capable de générer les solutions pour être remplacé. Voilà, en fait.
Marguerite, non, tu voulais réagir ?
Oh non, je voulais rappeler ma sympathie aux ZAD, qui sont, selon moi, les incubateurs d'idées de demain. Bon, je dis ça, je marche un peu par ma paroisse, parce que le premier bouquin que j'ai sorti était sur une ZAD, justement. Oui.
Mais justement, c'est intéressant ça par rapport justement à ton premier roman, parce que quand tu vois ce qui est en train de se passer aujourd'hui, et d'ailleurs, enfin, moi on était hier, mais effondré par le traitement médiatique et politique de ce qui est en train de se passer, et avec un ministre de l'Intérieur qui qualifie ces gens-là d'éco-terroristes. Il y a une dramatisation, ce qui est quand même dingue, parce que là on peut parler de greenwashing et d'un gouvernement qui dit qu'il va faire quelque chose pour le climat, qui n'en fout pas une, qui refuse de taxer les super-profits, etc. Bon, on va rentrer dans un débat plus politique là, mais là, j'ai été extrêmement choqué par la façon dont on peut aujourd'hui, à la tête du gouvernement, parler et utiliser des mots aussi forts qu'écoterrorisme pour des gens qui juste veulent empêcher la création d'un bassin de rétention.
Bien sûr. Déjà, à Notre-Dame-des-Landes, on parlait des zadistes comme étant une bande de hippies crasseux, stupides et vaguement dégénérés, c'est-à-dire en gros incapables de vivre en société et donc se rassemblant entre eux en fait, pour élever des moutons. Alors que, en fait, en réalité, ce qui se passait, c'était...
Là, on parle de terrorisme, hein, le sens des mots, c'est
ah oui, violence, non, mais justement, c'est cette espèce d'escalade, en fait, dans la dureté des termes, pour décrire les personnes qui cherchent, en fait, justement, à trouver des solutions et à et se rassembler pour former des microsystèmes et des solutions à échelle, comme vous disiez, du micro-collectif, applicable éventuellement à des groupes plus importants. Oui, m'interroge, effectivement, comme vous le disiez, on parle d'éco-terrorisme, alors que jusqu'à présent, arrêtez-moi si je me trompe, on n'a fait aucun mort. On n'a attaqué personne et on se contente d'actions choc qui n'abîment même pas les œuvres de Van Gogh. Donc on n'en est même pas à abîmer du patrimoine culturel, c'est-à-dire qu'on fait semblant. Donc en termes de terrorisme, je trouve que ça reste quelque chose d'incroyablement modéré.
Mais moi, je pense qu'il y aura une escalade de toute manière. Il y a déjà des actes de sabotage d'usines, d'infrastructures et tout ça, quelque part, dans divers endroits. J'ai vu j'ai lu des bouquins là-dessus. Et fatalement, face à la dureté des forces de réaction et des forces de répression, ce genre de mouvement va aussi générer une frange qui va être beaucoup plus radicale et qui va peut-être réellement s'attaquer aux organes de production, quoi, je dirais, si c'est pas aux êtres humains eux-mêmes, à la limite, quoi. Bon, là, c'est un peu le sujet de mon prochain bouquin, en fait. C'est pour ça que j'en parle.
Donc, ça veut dire que si on considère un delta dans 15 ans, c'est ce qui va se produire de ce que tu es en train d'écrire maintenant, quoi.
Non, ce que je suis en train d'écrire maintenant se produit maintenant. C'est plus de la fiction, non, là, c'est un thriller, là.
Il faut être rapide maintenant.
Il faut aller de plus en plus vite. Jérôme, tu voulais réagir.
Alors, oui, plusieurs choses. Jean-Marc, je vais continuer à lire tes livres. Sur les bassines. Alors, les bassines, je suis pas spécialiste de la gestion de l'eau agricole. Mais les bassines en tant que telles, aller chercher de l'eau à un moment où elle ne manque pas a priori, la stocker et l'utiliser à un moment où on est susceptible d'en avoir besoin, ne peut pas apparaître en soi comme un problème. Je pense que la référence problématique qui est là, c'est la privatisation d'une certaine quantité d'eau pour des besoins très spécifiques d'un nombre très réduit de personnes, sans même aller payer un collectif à la société.
Et sans la moindre concertation.
Voilà. Alors,
il y a une critique du modèle agricole aussi, parce que c'est pas pour défendre de l'agriculture vivrière ou de la permaculture.
Exactement. Alors, c'est là où j'allais en venir, et c'est là que les choses sont à intégrer globalement, parce que il n'y a pas un kilowatt d'électricité dans le monde qui n'est pas ou dont on ne sait pas par qui il a été utilisé, à quel moment et en gros pourquoi. Enfin bon. Donc on a une vision absolument exhaustive de nos besoins en énergie et on ne l'a pas sur l'eau, c'est quand même un truc de fou. On devrait quand même être capable, à un moment donné, de savoir où, combien et comment a été utilisé ce litre d'eau. Enfin comment, là c'est peut-être un petit peu plus problématique, mais je veux dire, vous comprenez bien ce que je dis. C'est la question de se dire, à un moment donné, si j'utilise de l'eau, alors, quand il y en a en quantité, ce n'est pas un souci, mais dans le contexte actuel, effectivement, il faut bien faire attention à comment on va demander cette autorisation. Je vous donne un autre exemple qui est un petit peu fou. En France, on a le droit de réutiliser de l'eau que l'on va traiter pour un certain nombre d'usages qui sont extrêmement réduits et en gros... Je caricature, on va produire de l'eau potable, de nouveau, quel que soit l'usage. Bon, voilà. Donc déjà, on dépense beaucoup d'argent, inutilement, très probablement, pour aller faire des usages. Maintenant, je suis agriculteur. Je vous parle de réglementation. La réglementation m'autorise à faire ça. Je suis agriculteur, j'ai une rivière qui passe près de chez moi. Il y a, en amont de cette rivière, dont le niveau est maintenu par le rejet des eaux traitées d'une ville en amont, je pompe 200 mètres plus bas. L'eau usée n'a pas été traitée de manière dite tertiaire pour un usage particulier. Non, elle a juste été diluée dans la rivière et j'ai le droit d'aller y pomper la seule autorisation que j'ai à demander est liée à la quantité que je vais prélever dans cette rivière, mais absolument pas à la qualité. On se rend compte que là, il y a une réutilisation qui est dite indirecte de l'eau usée qui ne répond à aucune réglementation. Il y a un vide juridique, tout simplement, qui n'est pas normal, qui est tout simplement pas normal.
Il y a un mot, et puis c'est l'un des enjeux d'ailleurs dans AquaTM, Jean-Marc, qui est là aussi pas très encourageant. Alors on était en train d'arriver vers des choses un peu plus positives, mais là c'est le rôle des industriels, la privatisation des ressources d'eau. On peut les citer, hein, Danone, Nestlé, Coca-Cola, qui sont aujourd'hui les principaux exploitants des sources d'eau douce pour faire de la mise en bouteille plastique, qui contribue au rajout de microplastiques à l'intérieur du circuit de l'eau, etc. etc. Donc peut-être une question, et puis ensuite on va prendre des questions du public après avoir fait un dernier tour de table sur cette question-là, c'est est-ce qu'il est envisageable, est-ce qu'il est possible de considérer aujourd'hui ou de trouver une solution qui serait de doter l'eau d'un statut international spécifique qui serait un bien commun imprescriptible? Qu'est-ce que vous en pensez? Vous avez 3 heures.
Ce serait en effet très souhaitable que l'eau soit considérée au même titre que l'air qu'on respire ou que le soleil qui nous chauffe, quoi, que ce soit une ressource à notre disposition, tout comme l'est le sol, l'air, voilà, effectivement. Mais dans le contexte économique actuel, c'est juste inconcevable, quoi, parce que c'est en train de devenir une ressource plus, au moins aussi précieuse que le pétrole. Je veux dire, Nestlé, c'est le total de la flotte, quoi. Ça peut générer tellement de profits et tellement de pouvoir et tellement de contrôle que ça devient une arme politique et voire stratégique. Donc, dans le contexte de notre système actuel, ce serait juste pas possible, mais moi, c'est ce que je souhaiterais. Enfin, dans l'idéal, dans une société idéale, l'eau n'appartient à personne. Bon, je pense que chez les Indiens, par exemple, ou les peuples primitifs, l'eau de la rivière ou du lac ou de l'étang au bord duquel ils vivaient, il n'y avait pas une tribu qui disait « ça, c'est ma partie de l'étang qui est à moi et puis tu n'y touches pas ». Donc voilà, l'eau devrait être... je dirais pas un bien commun de l'humanité, mais une ressource vitale pour tous les êtres vivants, humanité compris, quoi. Mais au même titre que les plantes, les arbres, les animaux, les voilà, parce que bon, on parle du manque d'eau pour l'humanité, mais moi j'ai vu comment la nature a souffert cet été, quoi. C'était dramatique, hein. Et on ne pense pas assez à ça, pas encore assez, quoi. Pas encore assez.
Marguerite, sur cette question, un avis, une opinion, une remarque?
C'est sans doute très constructif, mais ça m'évoque plein de choses. Dans certains pays nordiques, on a ce droit fondamental de l'humain d'avoir accès à la nature, à la forêt, des espaces verts, etc. Donc, ce qui a été mi-moqué, mi-envié par nous autres Français, il me semble. Ça paraît absurde, mais en réalité, ce qu'on sait au niveau psychologique, neurologique, du contact de l'humain avec un environnement naturel, avec le végétal, nous pousse à nous dire que finalement, oui, peut-être que c'est indispensable d'avoir cet accès privilégié à la nature. Et il devrait peut-être en être de même de l'eau. Et après, l'eau en tant que nourriture, en tant qu'élément indispensable à notre survie, oui, mais peut-être aussi l'eau en tant que part indissociable de la nature, au même titre que la forêt, voilà, pouvoir se baigner dans la mer, pouvoir regarder les vagues s'écraser sur le sable, pouvoir regarder les rivières dévaler des montagnes. Est-ce que ça ne fait pas aussi partie du patrimoine de l'humanité de pouvoir avoir accès à cette beauté, à cet héritage de l'humain et de l'animal, du vivant de façon générale? Est-ce qu'il n'y a pas une dette qu'on est en train de contracter vis-à-vis des générations futures qui ne pourront pas voir ces choses-là, en fait, au-delà même de la soif, cette espèce de cœur du sujet qui est bien sûr prioritaire et qui, voilà, Il y a aussi quel rapport intime, psychologique, affectif on va avoir avec l'eau et quel rapport nos enfants vont avoir avec, avec l'eau. Et là, c'est une question qui, que je trouve vertigineuse. On sait que la façon dont les gens sont élevés, en contact ou non avec ce qu'on identifie comme beau, esthétique, naturel, impacte le cerveau, son développement, la façon dont le cerveau va produire des œuvres d'art ou des idées simplement. De quoi au juste va-t-on priver les générations futures? Simplement d'eau ou quelque chose de beaucoup plus grand et de plus métaphysique? Je ne sais pas.
Jérôme, pour conclure sur cette question, et puis on prendra vos questions après. Je ne sais pas d'ailleurs s'il y a quelqu'un qui a des micros. Oui, c'est bon. Ok, super.
Alors, sur ce bien commun, j'avoue que je ne connais pas trop les implications de déclarer quelque chose bien commun, parce que la question qui se pose, c'est « et alors ?» Alors, est-ce que ça implique de définir et d'autoriser un certain nombre d'usages ou de pas usages? Est-ce que ça implique, à partir du moment où on l'a utilisé, de devoir la traiter? Qui, où, comment, sous quelle responsabilité? Quelle chaîne de gouvernance? C'est un vrai... Donc voilà, donc j'ai envie de dire sur le principe, au regard de l'importance de l'eau parce que, encore une fois, ce n'est pas la quantité qui pose problème de cette eau. Elle est quelque part. Le problème, c'est vraiment sa qualité aujourd'hui. L'eau, il y en a toujours eu sur Terre. Il y a toujours eu la même quantité et elle ne va pas disparaître. Simplement, elle tombe de manière très, très diversifiée selon l'endroit où on se trouve. Et il y en a où il n'y en a plus. Et malheureusement, quand il y en a, la qualité se dégrade. Donc, ce n'est pas un problème quantitatif du tout. C'est vraiment un problème de qualité. Donc, voilà. Et de répartition et que tout le monde en ait en quantité, voilà. Donc bien commun peut-être, mais alors bien réfléchir les implications que ça entraîne.
Nous avons une petite dizaine de minutes pour discuter avec vous toutes et tous. Il y a des questions devant, me semble-t-il, là-bas. Voilà, je vous laisse distribuer les micros. Voilà. Hop. Bonjour Jérôme.
Bonjour. Une question sur comment on parle de la fin du monde quand la fin du monde n'est pas comme on a l'habitude de la représenter. On pense à la fin du monde, la vague de l'Atlantide, le volcan de Pompéi, la grosse explosion nucléaire, quelque chose de soudain qui tue tout le monde d'un coup. Et là, on parle d'une fin du monde qui est très lente, très progressive. On ne peut pas vraiment faire une scène de film d'action en 10 secondes. Est-ce que du coup, ça change la manière dont on l'écrit? Est-ce que c'est facile à écrire, difficile à écrire? Comment on s'y prend?
Marguerite,
je vous en prie, parce que j'ai senti les regards.
C'est effectivement plus difficile à décrire qu'une apocalypse, voilà, le météorite qui s'écrase sur la planète ou la guerre nucléaire et tout. Et effectivement, dans les œuvres de fiction, souvent on a tendance à avoir, notamment dans la fiction post-apo, quoi, que la fin du monde a eu lieu et puis que les survivants se débrouillent comme ils peuvent et puis ont une mission lambda, ceci, cela. Et donc les auteurs s'en tirent en éludant un peu la façon dont ça se produit. Parce que c'est effectivement très complexe. Non pas de décrire comment le climat va se dégrader et comment les conditions peuvent empirer et tout ça, je l'ai fait sans trop de soucis dans Exode, par exemple, mais surtout comment la société réagit et comment elle se délite, comment un système se délite, comment le capitalisme s'effondre. Ça nécessite des connaissances ou des recherches globales qui sont longues et fastidieuses, mais d'un autre côté aussi passionnantes, quoi. Et je pense que ça peut être très intéressant et ça va être, je pense, le sujet d'un de mes prochains romans, d'essayer d'imaginer comment un effondrement peut se dérouler sur peut-être des dizaines d'années voire jusqu'à la fin du siècle. Si toutefois effondrement il y a, si la société se transforme pas d'une façon plus positive avant, bien que j'ai de forts doutes là-dessus, quoi, quand même.
Marguerite.
Oh, bah alors, comment on décrit une fin du monde qui se déroule au ralenti? Je sais pas, dans le cinéma, on a bien une fascination pour les gros ralentis sur des voitures qui explosent, des trains qui déraillent, etc. Donc, c'est quelque chose qu'on aime bien faire dans l'art de façon générale. Et puis, je dirais que une des choses qui peut nous permettre de comprendre comment une apocalypse peut se passer dans le plus grand des calmes, c'est d'observer la science de l'habitude de façon générale, comment les gens s'habituent à tout, parce qu'on s'habitue à tout, on s'habitue à toute forme d'injustice, à toute forme de violence. Je veux dire, nous sommes plastiques, nous sommes résilients, et je pense qu'on va s'adapter à la catastrophe climatique exactement comme on est capable de s'adapter à toute forme de violence, c'est-à-dire d'abord en commençant par en parler différemment, par le langage, on va voir la façon dont le langage va désigner les choses petit à petit, va appréhender petit à petit cette dynamique de l'urgence pour la mettre à distance, parce qu'un des premiers réflexes pour pouvoir gérer une information, pour pouvoir gérer une situation de crise, c'est de la mettre à distance, parce que sinon on est submergé. Puis une fois qu'on a eu le langage, on va voir ce qu'on transmet, ce qu'on explique aux gens, aux enfants, etc. Donc non, je dirais que toutes les étapes de l'apocalypse ont déjà été maintes et maintes fois répétées. C'est une chorégraphie que l'humanité a déjà performée plusieurs fois, je pense.
C'est peut-être en partie ce qui génère ou implique cette résilience. D'ailleurs, c'est qu'on se l'est déjà tellement raconté qu'on n'est pas trop surpris par ce qui arrive finalement, quoi.
Peut-être qu'on devrait.
Vous avez vu que cette question, c'est exactement la même que le point initial, le point final et la transition. On ne sait pas la décrire. Hein. Donc.
Une autre question.
Je suis tout droit. Oui. Bonjour. Je vais essayer de formuler une question qui ne serait pas trop fourre-tout. Je me demandais quelle pouvait être la perception ou la réception du grand public à la lecture soit de romans type Les Flibustiers de la mer acide ou un nom comme ça, ou les rapports du GIEC, etc. Et en vous écoutant, je pensais à la fenêtre d'Overton qui est sur l'acceptation politique des idées. Est-ce que la lecture de ces rapports ou romans contribue à décaler la fenêtre et à nous faire accepter des choses qui, au contraire, devraient plutôt nous faire agir, ou au contraire, justement, à nous faire agir. Donc, je ne sais pas trop comment positionner là-dessus. Et ça me faisait également penser à notre fonctionnement cognitif propre, qui est le mauvais calcul des risques, l'appréhension des risques. Parfois, on surestime des risques minimes mais proches, ou on sous-estime totalement des risques beaucoup plus importants, mais qui seraient plus lointains. Et du coup, je ne sais pas comment, selon votre perception, le retour que vous en avez, est-ce que au contraire, ça nous plonge dans une certaine apathie ou torpeur? Ou est-ce qu'au contraire, c'est plutôt un sursaut, un réveil qui pourrait d'ailleurs viser à prolonger le système actuel en se disant le technosolutionnisme, la géo-ingénierie, faire tomber les pluies, dessaler l'eau de mer, etc. Donc voilà, comment vous pensez que sont perçus ou reçus ces rapports ou ces romans? Voilà, je vous remercie.
Merci. C'est intéressant, c'est effectivement cette notion d'accessibilité et de fenêtre. C'est-à-dire à force de raconter la catastrophe, est-ce qu'on ne contribue pas un peu à ce que tu disais, Marguerite, c'est-à-dire à l'inscrire dans notre imaginaire collectif comme un fait établi, comme un fait accompli, et donc à réduire la possibilité de s'indigner, en fait, et de s'insurger et de lutter contre?
Vous venez de me coller un énorme doute, en fait. merci pour cette question qui va me... C'est-à-dire que maintenant, j'en suis à me demander si effectivement, en présentant la catastrophe comme quelque chose effectivement d'acquis, voire d'un peu drôle, qu'on peut prendre de façon déjantée, on ne contribue pas à, tout en ayant pour but de rasséréner un peu les gens et de les faire rire, est-ce qu'on ne contribue pas à désensibiliser un petit peu, petit à petit, l'opinion collective? Est-ce qu'à force de voir de la fiction, on ne va pas finalement se dire que c'est ce que c'est, de la fiction? Je ne sais pas. Qu'en fait, on contribue à affaiblir le débat, je ne sais pas.
Moi, je ne crois pas, en fait. Je ne pense pas, parce que les gens se désensibilisent à force de JT catastrophiste. Je veux dire, ils voient les incendies géants à la télé, ils voient des villages entiers emportés par des inondations, ils voient les conflits, les luttes pour le climat, les luttes pour l'eau, ils voient la réalité à la télé, et ça les touche pas plus que ça, comme les gens étaient peut-être pas touchés plus que ça par la guerre tant qu'elle leur tombait pas dessus, quoi. Et les gens, à mon avis, sont par nature désensibilisés parce que surinformés et incités à oublier le monde réel avec la quantité de divertissement qu'on a de toutes sortes. Donc, qu'arrivent des romans post-apo ou des romans tout à fait apo qui leur disent attention, voilà ce qui va se passer, voilà ce qu'on risque de vivre. Au contraire, ça peut générer des prises de conscience. Moi, je sais que j'ai eu plusieurs réactions de lecteurs qui m'ont dit « Ah ben, dis donc, j'ai lu Aquatème ou j'ai lu Exode, quelle claque, ah ben, ça m'a fait prendre conscience maintenant, voilà, je trie mes déchets ou je milite dans une asso ou j'incite mes enfants à faire ceci, à faire cela. » Donc, ça peut générer une prise de conscience. Ça peut peut-être habituer à la catastrophe. En tout cas, moi, ça m'y a habitué. Ça, je le dis, je l'avoue franchement, moi, en tant qu'auteur, tout ce qui arrive maintenant m'angoisse pas plus parce que j'ai passé déjà le stade de l'angoisse, quoi. J'ai tellement craint que ça arrive que maintenant que ça arrive, bah, je le crains plus. Et maintenant, je me dis, il faut vivre avec. Et puis, bon, bah, les gens, je pense, enfin, la majorité des gens vont continuer à vivre tant bien que mal, le plus normalement possible, jusqu'à ce que ce soit plus possible. Quoi. C'est la métaphore de la grenouille, quoi, que vous connaissez tous. Hein.
Donc on distribue des capsules de cyanure à la sortie de la salle, hein, pour conclure ce débat, je vous remercie. Deux choses pour poursuivre cette réflexion en images. Deux films, Le jour où la Terre prit feu, film de Valguez qui va être diffusé tout à l'heure à 16h15 en salle Hyperion. Mad Max sur les routes de George Miller, hein, où l'accès à l'eau est évidemment un enjeu majeur, qui est diffusé
excellent.
À 17h15 en salle Dune. Vous pouvez retrouver Jean-Marc, Marguerite, moi-même, votre serviteur en dédicace à la librairie. Et pour conclure, on reparlera d'ailleurs d'Exode demain sur la Cli-Fi avec Jean-Marc demain soir dans une table ronde. Et puis pour conclure par une petite note d'espoir, puisque si la solution pour sauver l'eau, ce n'est pas tellement, donc on l'a compris, de fermer le robinet quand on se lave les dents, mais de limiter un peu bien notre consommation d'eau douce. Je vous donne rendez-vous donc au bar de Madame Spock pour substituer l'eau douce par d'autres formes de liquide. Je vous remercie, passez une bonne journée, un bon festival.